bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. Au moins 4 femmes meurent toutes les 60 minutes de suite de complications d'une grossesse ou de l'accouchement. RDC, le Fonds des Nations Unies pour la population, a lancé le concours Prix Média Henriette Eke pour impliquer les journalistes dans les questions de la population, particulièrement la promotion de la santé maternelle. Qui peut participer à ce concours, vous le saurez en suivant cette édition. Lutte contre la justice populaire. Nous irons dans la plaine de la Rusizi à Uvira où le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a lancé depuis vendredi 10 juin une campagne de prévention et de sensibilisation sur ces phénomènes qui prend de l'ampleur. Une trentaine d'acteurs sociaux de Sangui ont pris part à un atelier organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et l'invité du magazine des Nations Unies de ce dimanche, c'est Madame Angélique Couélard, responsable de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO Béni. Notre invité fera le point sur l'évaluation et la classification de détenus en marge d'un atelier organisé sur ce thème. Ce sont là les grands titres de cette édition. Le développement dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bonne journée dominicale. Avant toute chose, aujourd'hui c'est le 12 juin. Cette date est consacrée comme journée mondiale contre le travail des enfants depuis 2002. Pour cette année, l'ONU appelle à un investissement accru dans les systèmes et régimes de protection sociale afin d'établir des socles de protection solides et de protéger les enfants. Bien que des progrès significatifs aient été accomplis dans la réduction du travail des enfants au cours de 2 décennies précédentes au niveau mondial, les Nations Unies disent constater en ralentissement, voire une stagnation entre 2016 et 2020. Aujourd'hui, l'organisation parle de 160 millions d'enfants âgés de 5 ans et plus, victimes du travail des enfants. Passons maintenant à l'actualité de la semaine avec d'abord ce prix média lancé par UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Éliminer le décès maternel évitable en RDC, c'est le thème de ce prix média lancé officiellement vendredi 10 juin 2022 à Kinshasa. Le prix s'appelle Prix Média Henriette Eke. Les détails pratiques du concours et les conditions de participation avec vous au Jean-Francis Mouya.
Le concours va du 10 juin au 15 novembre 2022 à 16h30, période pendant laquelle les hommes et les femmes des médias intéressés devront déposer leur production, des articles et des reportages sur le thème. Ne peuvent participer au prix Henriette Eke que des journalistes travaillant en RDC et possédant une carte de presse délivrée par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Les productions journalistiques à proposer doivent avoir été diffusées ou publiées sur un média régulièrement installé en République démocratique du Congo entre juin et novembre 2022. Autre précision, pour la catégorie presse écrite, la production ne doit pas dépasser 3000 mots avec espace. Pour la presse en ligne, la production ne doit pas dépasser 2000 mots avec espace. Le minutage pour les productions radiophoniques et télévisuelles sera pour les deux médias de 2 à 5 minutes au maximum.
Il faut noter que l'UNFPA a lancé ce prix pour accroître l'implication des journalistes dans les questions de la population, entre autres la promotion de la santé maternelle. Selon cette agence, au moins 4 femmes meurent toutes les 60 minutes de suite de complications d'une grossesse ou de l'accouchement. Par ailleurs, pourquoi parle-t-on de prix Henriette Eke? Eh bien, Henriette Eke était une sage-femme congolaise qui a consacré 40 ans de sa vie à son travail. À ce titre, elle fut conseillère à UNFPA. Elle est décédée en novembre 2020. Le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises a lancé la campagne pour le plaidoyer et la dissémination des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin en RDC. L'événement a eu lieu jeudi 9 juin 2022 au pavillon 22 de la Foire internationale de Kinshasa avec l'appui de ONU Femmes, Organisation des Nations Unies pour la Femme. Jeff Opela, reportage.
C'est le ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise, représenté par son conseiller, M. Biabia Mompele Popol, qui a lancé cette campagne.
Je suis mandaté pour lancer officiellement la campagne de dissémination des textes de loi visant à autonomiser davantage la femme, et particulièrement la femme entrepreneur.
L'objectif est de soutenir les initiatives économiques des opérateurs du secteur des micro, petites et moyennes entreprises avec l'implication matérielle et financière de l'ONU Femmes. Le représentant résident de cette agence onisienne en RDC, Adama Moussa, explique.
Je commence par reconnaître le mérite de ces dames, de ces femmes entrepreneurs. Et comme j'ai dit, la première industrie a commencé au niveau de la cuisine. On n'apprend pas aux femmes à transformer. Elles le savent déjà. Et c'est pour cela que l'entrepreneuriat pour les femmes commence dans la cuisine commence pour nous. Donc, il faut favoriser davantage la question de l'entrepreneuriat féminin et de façon individuelle avant que ça ne soit des coopératives.
Le coordonnateur national du projet d'appui au développement du micro, petite et moyenne entreprise, Alexis Mangalangongo, s'est lui aussi exprimé à la satisfaction des différentes organisations présentes. Un extrait de son intervention.
Je vous dirais que c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous au nom du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises, PADMPME. Un plaisir qui trouve tout son sens dans la mission du PADMPME, qui a notamment pour ambition d'encourager les initiatives des femmes congolaises lancées dans le combat pour la réappropriation de notre destin économique par la voie de l'entrepreneuriat.
Ce programme de soutien que le gouvernement de la RDC a mis sur pied avec l'appui de l'ONU Femmes exige donc une réforme et la vulgarisation des textes de loi en faveur des femmes.
Nous l'avons annoncé dans le sommaire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, s'en va en guerre contre les actes de justice populaire à Sangui, dans la Ruzizi à Uvira. Près de 30 acteurs locaux de cette contrée, parmi lesquels des représentants des confessions religieuses, des femmes, des jeunes, ainsi que la police et les autorités civiles locales, ont participé mardi et mercredi dernier à un atelier de sensibilisation et de prévention sur justement la justice populaire. Fiston Goma.
Les participants venaient de Mutaru, les Loubéré, Zignac, Kabere Sang et la basse plainte vers la rivière Ouzizi ont déploré le phénomène mystique appelé sorcellerie qui prend de l'ampleur et qui est devenu source de la pauvreté dans leur milieu. Beaucoup de personnes accusées d'être sorcières ont évacué le village, d'autres ont été tuées par les habitants en colère. En plus, les acteurs locaux expliquent le regain des actes de justice populaire par le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire où des personnes poursuivies pour les cas de vol et banditisme ont été relaxées. L'abbé Moudé Rouabissimo est curé de la paroisse catholique qui s'inquisite des Sangui.
Un voleur, on le prend, on l'envoie à la police et après au tribunal, ainsi de suite. Mais si ce voleur là-bas est pris par un groupe de jeunes jusqu'à être tué, c'est parce que l'on sait que s'il va à la police ou bien au tribunal, peu de temps après, on remarque qu'il a été libéré. Alors qu'il devrait même faire plus de 20 ans en prison.
Le premier substitut du procureur de la République a recadré les acteurs locaux sur ce que dit la loi en rapport avec les infractions des vols et viols. Il a indiqué la procédure à suivre en cas d'infraction, sauf pour la sorcellerie qui n'est pas reconnue par la loi congolaise à la suite des manques de preuves matérielles. Après Sangue dans la plaine de la Ruzizi, cette activité se poursuivra dans la ville d'Uvira où des actes de justice populaire sont récurrents. D'Uvira, Fiston Momayaba, la Radio Kapi.
Avant de tourner cette page, rendons-nous à Djougou, en Ituri, avec le HCR qui dénonce des tueries dans des sites qui hébergent des personnes déplacées. Plus de 200 tués enregistrés en l'espace de 9 mois, selon le chef du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qu'il a annoncé mercredi dernier à Bounia. C'était à l'issue d'un atelier de 2 jours qui a réuni des acteurs humanitaires ainsi que des gestionnaires des sites de déplacés. L'objectif de cette formation était de renforcer les mécanismes de sécurité dans ces sites en vue de mieux assurer la coordination des urgences. Faisons le point avec Ezekiel Mousalia.
Au moins 16 attaques de manarme identifiées aux assaillants de la Codeco ont été enregistrées en l'espace de 9 mois dans différents sites de déplacés dans le territoire de Djougou. Selon le HCR Ituri, 200 déplacés ont été tués au cours de ces attaques. Le dernier cas est celui du site de Loda près de Fataki où 15 personnes déplacées dont 10 enfants ont été lâchement abattus en avril dernier par ces inciviques. C'est ce qui a justifié la tenue de cet atelier de 2 jours organisé par le HCR sur les mécanismes de protection des sites de déplacés. Denis Oulaï, chef de bureau de HCR Ituri.
Les sites de déplacés sont victimes d'attaques des hommes en armes où on a eu à déplorer de nombreuses personnes qui ont été tuées. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est dans un processus de plaidoyer pour une sécurisation forte de ces sites de déplacés. L'une des actions qu'on fait déjà, c'est de travailler avec le gouvernement provincial.
Selon le HCR Ituri, un autre défi est celui des multiples besoins humanitaires qui nécessitent des interventions d'urgence. Signalons que l'Ituri compte à ce jour près de 2 millions de déplacés qui sont disséminés dans 64 sites selon les chiffres du HCR. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
nous revenons sur le lancement à Mbandaka il y a quelques jours du programme Pouvoir Choisir avec l'appui des Affaires Mondiales Canada, un programme qui a trait à la santé sexuelle et reproductive de jeunes femmes et adolescentes, l'assainissement et la prévention contre les infections ainsi qu'au genre et au plaidoyer. Dans la province de l'Équateur, ce programme sera implémenté dans les 3 zones de santé de la ville de Mbandaka et à Bikoro. Le coordonnateur du programme, le Dr Christian Malou, a parlé de la motivation et des avantages du dit programme dans un entretien avec Paul-Richard Malingela.
Docteur Christian Malou, bonjour.
Bonjour.
D'abord, une brève présentation de votre projet.
Merci. Il s'agit bel et bien du programme Pouvoir Choisir, qui est un programme qui s'intéresse à 3 volets. Nous avons d'abord la santé de la reproduction et le droit sexuel, mais aussi le volet WASH-PCI et également le volet genre et plaidoyer. C'est un programme qui vise la jouissance des droits sexuels et reproductifs des jeunes femmes et adolescentes dans la province de l'Équateur.
Docteur Christian, tout à l'heure, vous avez donc présenté ce projet, mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui a amené à la mise sur pied de ce nouveau programme Pouvoir Choisir?
En fait, il y a eu des études de base, des enquêtes qui ont été effectuées ici sur place dans la province de l'Équateur. Les enquêtes ont démontré que 50% de jeunes filles et adolescentes de la province de l'Équateur n'ont pas des notions, n'ont pas de connaissances sur leurs droits sexuels et reproductifs. Et 50% d'entre elles n'ont pas de notions sur l'utilisation de préservatifs ni sur la planification familiale. Donc ce sont là les raisons qui nous ont poussé à orienter ce grand programme dans la province de l'Équateur afin d'accroître la jouissance même de droits sexuels et reproductifs auprès des jeunes femmes et adolescentes en vue d'une autonomie corporelle auprès de ces dernières.
Quand on parle d'autonomie corporelle ou bien sexuelle, comment allez-vous faire pour que ce programme ne puisse pas heurter les coutumes de l'Équateur? Parce que la plupart tendent à considérer la femme comme une chose dont on peut jouir à sa guise.
Merci. En fait, nous allons procéder à des sensibilisations auprès des leaders communautaires, auprès des leaders religieux, auprès des autorités administratives et politiques de nos communautés, afin d'avoir leur soutien, afin qu'ils comprennent le mauvais côté des us et coutumes néfastes par rapport aux droits de la femme et des jeunes filles. Donc, nous allons les sensibiliser afin qu'ils puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de ces grands projets, et c'est ainsi que nous aurons la pérennisation même des acquis de ce programme dans la province de l'Équateur.
Docteur, en revanche, certaines gens estiment aussi que ce genre de programme pousse les femmes à devenir de plus en plus insoumises, à mettre des conflits au niveau des foyers, au niveau des familles. Votre réaction?
Non, je ne suis pas d'accord avec vos affirmations, parce que maintenant...
Pas mes affirmations, mais c'est ce que la population...
Ok, merci. En fait, maintenant, nous faisons la promotion de la masculinité positive, dont la société étant tellement ancrée dans l'injustice, dans les inégalités du sexe, et là, nous voulons inverser la tendance. Donc c'est maintenant que ce soit la femme ou l'homme, devons tous jouir dans un même niveau nos droits sexuels et reproductifs. Donc c'est ça même le bien fondé de ce programme. Ce programme tombe à point nommé pour essayer de réduire ces inégalités entre femmes et hommes dans la province de l'Équateur. Donc ce n'est pas pour rendre la femme insoumise, mais c'est au contraire, c'est pour faire la promotion même des droits de cette femme et jeune fille dans la province de l'Équateur.
Y a-t-il un message particulier à l'endroit de la population de l'Équateur bénéficiaire de ce projet?
C'est vraiment, nous sollicitons de leur accompagnement, l'accompagnement de toute la province de l'Équateur, des autorités, des jeunes filles et adolescentes, afin qu'ensemble, nous puissions mettre en œuvre les activités prévues dans ce grand programme qui est le Pouvoir Choisir.
Docteur Christian Malou, merci.
Merci.
Plus bref, la chef de bureau terrain de la MONUSCO à Goma, Laila Bouril, a salué lundi 6 juin le message de paix de 6 communautés du Nord Kivu, C'est au cours d'une rencontre avec la presse organisée à Goma que Laïla Bouril a exprimé son sentiment, qualifiant les messages de ses communautés de conciliateurs et apaisants. Après les tensions observées depuis la reprise des combats entre les FRDC et le M23, la MONUSCO a voulu conscientiser les représentants des différentes communautés du Nord Kivu en vue de combattre les discours de haine. De la paix au développement, il n'y a qu'un pas, toujours avec la MONUSCO, cette fois en allant en Ituri, afin de promouvoir les activités économiques dans la région ainsi que de renforcer la cohésion sociale entre les différentes communautés locales. La mission onusienne a construit et équipé un marché au centre de négoce de Bukiringi. Bukiringi est une localité située à 95 km au sud de Bunia, dans le territoire d'Irumu. La remise officielle de cette infrastructure, dont le coût global est estimé à 99 362 dollars américains, a eu lieu le 27 mai dernier. Environ 120 jeunes, dont 30 femmes, ont servi de main d'œuvre pour la réalisation des travaux qui ont duré 3 mois. Enfin, un peu plus de 10 millions de dollars américains pour former des jeunes du Haut-Katanga et du Lualaba dans les secteurs des engins lourds. Les bailleurs de ce projet, le gouvernement suédois et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI, ont signé à cet effet un contrat mercredi 8 juin 2022 à Kinshasa dans le cadre du projet Appui à la formation et à l'emploi qualifié dans les secteurs des engins lourds de la RDC.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Angélique Kouéla est notre invitée de ce dimanche. Elle est responsable de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO Béni. Elle parle de l'importance de la formation des responsables des prisons de Béni, Boutembo et Bounia sur le thème évaluation et classification de détenus. C'est en marche d'un atelier de 3 jours organisé dans la semaine. Angélique Kouéla répond aux questions de Martial Papi-Moukeba.
Madame Angélique Kouéla, bonjour.
Bonjour, Monsieur Martial.
Pourquoi vous avez décidé de former les responsables des prisons de Béni, Boutembo et Bounia?
Il faut dire que dans la mise en œuvre de son programme d'activité, l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire a intégré le renforcement des capacités professionnelles des acteurs pénitentiaires. C'est à cet effet que l'administration pénitentiaire a décidé de former 9 cadres des prisons de Béni, Boutembo et Bounia en évaluation et classification des détenus.
Le thème de la formation, c'est évaluation et classification des détenus. Pourquoi ce thème?
Vous savez que présentement, nos prisons, notamment la prison de Béni, la prison de Boutembo et celle de Bounia, regorgent un certain nombre de détenus issus des groupes armés. Et au regard du nombre important de ces détenus-là, l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire a donc initié la formation de ses acteurs sur le thème évaluation et classification des détenus qui suppose d'abord, quand vous prenez le mot évaluation, c'est l'étude d'un détenu. Et la classification, c'est la catégorisation. Donc, c'est l'identification du degré de dangerosité du détenu en détention dans le but donc de renforcer les mesures sécuritaires et en même temps de pouvoir classer ces détenus-là en fonction de leur catégorie.
Est-ce que cela n'implique pas aussi leurs conditions de détention?
Oui, cela implique nécessairement leurs conditions de détention parce qu'il faut dire que dans nos prisons, et nous avons des défis. Et les défis aujourd'hui sont liés aux conditions de détention, comme vous venez de le dire, mais cela n'empêche parce que nous nous sommes dit que il faut quand même un départ parce que les défis sont là. Quand on parle de l'évaluation et de classification, cela suppose la classification des détenus en fonction de leur catégorie. Et vous constatez que dans notre établissement, il y a déjà un problème d'infrastructure qui est là. Donc, c'est un handicap qui est là, mais cela n'empêche que nous puissions commencer avec quelque chose qui puisse déjà aider les détenus parce que l'évaluation et la classification des détenus entrent donc dans le cadre aussi de leur réadaptation sociale, de leur réinsertion sociale.
Qu'est-ce que cette formation va apporter dans l'amélioration des conditions de détention des détenus dans les prisons de Béni, Boutembo et Bounia?
Comme impact de la formation, il faut dire que la formation vise d'abord à outiller ces 9 cadres de la prison-là, comme je le disais, dans l'identification du degré de dangerosité des détenus. Là, c'est un élément déjà très, très important parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans nos prisons, il y a des détenus qui arrivent pour des infractions dites bénignes, c'est-à-dire des infractions mineures. Et aussi, il y a des détenus qui arrivent pour avoir commis donc des infractions plus graves, comme des assassinats, des meurtres. Et également les détenus qui sont issus des groupes armés, comme vous le savez. Participation au mouvement insurrectionnel, qui sont des infractions dites infractions à haut risque. Donc ça, c'est le premier point, l'identification du degré de dangerosité des détenus. Le second point, c'est de pouvoir asseoir un système efficace dans la gestion de catégorisation des détenus. Et là, ça va permettre un meilleur suivi des détenus en fonction de leur infraction. Ensuite, c'est de prévenir donc la radicalisation des détenus et anticiper les actions criminelles en prison. Parce que quand on a un bon suivi des détenus, on peut déjà anticiper certaines infractions qui risquent de troubler donc l'ordre sécuritaire. Et également, cette activité va permettre de réduire les évasions et les mutineries en détention et en même temps favoriser la réadaptation sociale du détenu.
Est-ce que cela n'exige pas la création des cellules dans les différentes prisons selon la catégorie des détenus et selon les infractions pour lesquelles ils sont arrêtés ou condamnés?
C'est une question vraiment pertinente. Il faut forcément des cellules de séparation. Mais ça, c'est un travail qui va se faire en collaboration avec le gouvernement congolais parce que la MONUSCO est là, c'est une organisation d'appui. Et cela aussi va impliquer plusieurs autres acteurs dans la mise en œuvre de cette gestion sur le plan infrastructure.
Madame Angélique Kouila, merci.
Merci beaucoup.
Retour dans l'est de la RDC, à Butembo précisément. Les autorités administratives et sécuritaires de cette ville et de Lubero se sont réunies mardi 7 juin 2022 en vue d'évaluer le système d'alerte précoce mis en place dans le but de protéger la population de tout risque sécuritaire dans cette région. La MONUSCO est impliquée dans la réalisation de ce système. César Matumo, coordonnateur intérimaire de la protection civile à Butembo, parle de ce mécanisme et de son efficacité au micro de Sadiki Aboubakar.
Au niveau de la MONUSCO, il y a des comités locaux de protection qui sont implantés partout à ville de Butembo. Au niveau de la protection civile, il y a des numéros verts qui sont mis à la disposition de la population, mais il y a aussi des observateurs communautaires qu'on forme dans les périphéries de la ville, même dans les territoires de Lubero, civils comme policiers qui sont formés, dotés, en fait, d'alerter l'autorité à taille utile afin que l'autorité intervienne avant que les purs n'arrivent. Et ces numéros au niveau de la protection civile, c'est 082 08 00 001. C'est lui d'RTL, c'est le 09 99 00 405. Ça, c'est le RTL.
La plupart des fois, il y a des habitants qui disent appeler ces numéros verts, mais l'intervention vient souvent le lendemain pour constater les dégâts. D'où vient cette lourdeur-là en termes d'intervention?
C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, ensemble, nous qui intervenons dans le système d'alerte précoce. Effectivement, nous sommes en train de nous regarder dans les yeux pour nous évaluer. Mais il y a aussi des alertes qui sont répondues.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
En avril dernier, Bintou Keïta a participé à Berlin à une conférence des missions de maintien de la paix. De quoi était-il question? Cela a été demandé mercredi dernier à la chef de la MONUSCO au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Suivez sa réponse.
2 minutes pour conclure avec les conclusions de la retraite, en fait, entre guillemets, des opérations de maintien de la paix à Berlin. Je crois que c'était les 25 et 26 avril dernier. Très clairement, les défis qui existent sont maintenant des défis au niveau de la forme de violence qui existe sur terrain. Et du fait que s'il y a plusieurs années en arrière, on va dire il y a 20 ans ou un peu plus, il y avait un respect pour les casques bleus, maintenant nous sommes dans des situations dans la plupart des opérations de maintien de la paix où les casques bleus sont directement pris pour cible. Et là, nous venons juste de se commémorer le 29 mai, c'était dimanche, ici même à Goma, le fait que le travail que font les casques bleus, que ce soit les militaires, les civils, les policiers, les volontaires des Nations Unies, tous ceux qui concourent au travail des opérations de maintien de la paix, vivent et travaillent de plus en plus dans des conditions difficiles, dangereuses, avec les contextes de guerre asymétrique, d'utilisation de techniques terroristes, d'utilisation accrue de ce que j'appelle la menace des engins explosifs improvisés, notamment pour ce qui concerne ici au Mali, c'est quasiment tous les jours, et ici c'est essentiellement dans la zone de Béni. Et pour les collègues et le staff qui travaillent dans ces zones, comme pour la population et comme aussi pour les forces de sécurité, c'est une menace qui est absolument terrible. Et donc, de plus en plus, on doit pouvoir s'outiller dans les opérations de maintien de la paix à la hauteur convenable pour juguler ces risques des engins explosifs improvisés.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Quatre coups d'état à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. 13 juin, journée internationale des sensibilisations à l'albinisme. 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang. 15 juin, journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Et enfin, 18 juin, journée internationale de la lutte contre les discours de haine. Et c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Kapi en un seul mot. Merci de votre attention. Merci également à Hippolyte Kapanga qui en a assuré la coordination technique. Moi, c'est Babel Pongo Massimango. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission qui a été produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de rester branchés sur la Radio de la Paix pour la suite de nos programmes. Quant à l'équipe du magazine des Nations Unies, eh bien, vous fixez rendez-vous dimanche prochain.